matinale d'Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 27 septembre et au lendemain de la disparition de Jacques Chirac, nous vous proposons ce matin une matinale spéciale jusqu'à 9h. Je ne vais pas vous mentir, chers auditeurs, je suis un brin ému ce matin. Qu'on l'ait aimé ou détesté, Jacques Chirac, c'était une voix, un regard malicieux, un sourire ravageur qui nous ont tous accompagnés à un moment de notre vie. Alors c'est pourquoi, plus que jamais, je fais appel à vous ce matin. Venez partager avec nous votre émotion, vos souvenirs. Que retenez-vous de Jacques Chirac? Quel regard portez-vous sur l'homme et son action politique? J'attends vos témoignages sur les réseaux sociaux, mais surtout à l'antenne. Je serai ravi, on sera ravi de vous accueillir en direct. Alors appelez-nous au 3921, je compte sur vous. Bonjour Omblin Roche.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Vous serez jusqu'à 9h au cœur de cette matinale spéciale, mais comme la musique donne la paix à ceux qui sont sans repos et console ceux qui pleurent, c'est Pablo Casals qui l'a dit, alors on a décidé ce matin de maintenir, Omblin, votre partition à 6h10. L'histoire méconnue d'une chanson ou d'un artiste. Vous nous racontez quoi ce matin?
L'enregistrement du disque le plus important de la carrière des Rita Mitsouko de No Comprendo dans le cocon de leur foyer parisien. Un enregistrement en partie filmé par Jean-Luc Godard. Ce disque qui se retrouve dans une intégrale du duo et ça sort aujourd'hui.
L'Erita Mitsouko, pour égayer notre réveil. Oui. À 5h40, je reçois un homme qui a passé de longues heures en tête à tête à converser avec Jacques Chirac. Il s'agit de son éditeur et biographe, celui qui a coécrit les mémoires du président. Jean-Luc Barré sera mon invité. Un témoignage exceptionnel à ne pas manquer. Mais avant, la météo de ce vendredi 27 septembre avec Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Bien bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Nous allons vivre une journée encore très agitée sur les régions de la moitié nord. Nous détaillerons tout cela tout à l'heure, mais il y a à la fois des averses près de la Manche avec du vent. Il y a à la fois une perturbation aussi qui traverse le pays et que nous ciblerons dans son déplacement. Et puis le soleil, je vais dire presque l'été dans les régions du sud. Pourquoi l'été? Parce qu'il fera entre 25 et 30 dans le sud, mais seulement entre 17 et 21 sur les régions septentrionales. Voilà, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de votre journal matinal spécial jusqu'à 9h sur Europe 1. C'est parti.
Europe 1, il est 5h.
Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime.
Révolue ce monde politique, une page de notre histoire se tourne. Jacques Chirac est mort, Emmanuel Macron lui rend hommage.
Des centaines de Français à l'Élysée hier soir pour de premiers hommages citoyens avant les hommages de la nation. Deuil national et cérémonie religieuse lundi à Paris.
Sous Chirac, la France a regardé dans les yeux son passé le plus sombre. En 96, il reconnaît la responsabilité du pays dans la déportation des Juifs de France. Leur émotion encore palpable aujourd'hui.
On était tous bouleversés. Enfin, enfin, quelqu'un acceptait de dire la vérité. Merci à Jacques Chirac.
Jacques Chirac, précurseur en matière de santé publique. Nous reviendrons sur ses luttes contre le cancer et le sida.
Et puis Chirac, l'homme, le très bon vivant, le chaleureux, un terrien, indéfectible défenseur du monde agricole.
Je pense que franchement, il nous aimait, nous les agriculteurs. Et avec nous, il se sentait dans son milieu. C'était sincère.
Matinale spéciale sur Europe 1 jusqu'à 9h.
Europe 1. Sur Europe 1, Julien Pierce, Jérôme Lacroix.
Juste avant 21h hier soir, Brigitte et Emmanuel Macron arrivent au dernier domicile parisien de Jacques Chirac, rue de Tournon, dans le 6e arrondissement, auprès des proches de l'ancien chef de l'État, mort à 86 ans.
Moins d'une heure avant, le président de la République rendait hommage à l'un de ses prédécesseurs lors d'une allocution télévisée. Jacques Chirac, un grand Français, libre, a dit Emmanuel Macron.
Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Et que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Nous avons pour Jacques Chirac ce soir de la reconnaissance. Il fit tant pour notre nation, nos valeurs, la fraternité et la tolérance. Nous nous souvenons ce soir avec émotion et affection de sa liberté, de sa personnalité, de ce talent qu'il eut de réconcilier simplicité et grandeur, proximité et dignité, amour de la patrie et ouverture à l'universel. Mes chers compatriotes, portons en nous désormais cette part de notre histoire qui l'accompagne, conscient de notre dette à son égard. fort de ce qu'il nous a légué. Il entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous.
L'hommage d'Emmanuel Macron à Jacques Chirac hier soir lors d'une allocution solennelle.
Un grand homme d'État, un amoureux de la France, ça ce sont les mots d'anonymes, de Français, venus hier soir rendre hommage eux aussi à Jacques Chirac. Ils étaient des centaines à l'Élysée.
Le palais présidentiel occupé 12 ans par Bernadette et Jacques Chirac, dont les portes sont restées spécialement ouvertes jusqu'à tard hier soir. Un livre de condoléances à disposition de chacun. Elles ouvrent à 8h30, l'opération se poursuit jusqu'à dimanche.
Et à partir de maintenant, la France se prépare à accueillir des dizaines de dirigeants et de chefs d'État du monde entier ces prochains jours, suite des hommages, ceux de la nation. Adrien Beck.
Lundi à midi, l'église Saint-Sulpice accueillera un hommage religieux officiel. Une cérémonie présidée par l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, à laquelle participera Emmanuel Macron, mais aussi certains chefs d'État étrangers. Le monde entier arrive à Paris, dit un proche conseiller du président. C'est vrai que Jacques Chirac connaissait personnellement de nombreux chefs d'État africains, mais aussi Angela Merkel ou encore Vladimir Poutine. En revanche, une incertitude plane sur un hommage national aux Invalides. La famille semble vouloir une cérémonie plus privée ou peut-être un hommage populaire qui pourrait avoir lieu dans le week-end. Tout cela doit être décidé dans les prochaines heures. Enfin, lundi sera une journée de deuil national. Un décret doit-on préciser les modalités aujourd'hui. Tout cela dans un agenda politique bouleversé. Emmanuel Macron a annulé hier son débat sur les retraites à Rodez. Il sera reporté, mais on ne sait pas quand, confie-t-on à l'Élysée. Reporté aussi le très attendu débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, qui était prévu lundi après-midi.
Les précisions d'Adrien Beck pour Europe 1. Et hier, minute de silence dans les deux hémicycles, Assemblée nationale et Sénat.
Jacques Chirac, ce sont plus de 40 années de vie politique française. Entré à 30 ans au service de l'État, il occupera tous les postes. Député, président de conseil général, maire de Paris, secrétaire d'État, ministre et puis bien sûr président. Ce matin sur Europe 1, les mots de l'un de ses premiers ministres.
Son premier ministre, celui des débuts difficiles en 1995, avant la dissolution de 1997. Le meilleur d'entre nous, disait Jacques Chirac à son propos, c'est évidemment Alain Juppé.
Ce qui compte aussi pour moi, bien sûr, au-delà de cette relation personnelle, c'est l'empreinte politique qu'il laisse dans notre pays et les engagements qui ont été les siens. Je voudrais souligner ce qu'on fait rarement, son engagement européen. Si en 1992, il n'avait pas fait cause pour le traité de Maastricht, nous n'aurions pas l'euro aujourd'hui. Tout le monde pense aujourd'hui à sa phrase fameuse, si la maison brûle. Mais vous savez qu'il l'a traduite dans les faits en faisant adopter un principe de précaution dans nos institutions qui a été critiqué et dont on se rend compte aujourd'hui qu'il était sans doute prémonitoire. Et puis c'était un homme de paix qui prônait là aussi ce qui est une constante de la diplomatie française, c'est-à-dire le multilatéralisme, la recherche de solutions négociées plutôt que de solutions violentes. Enfin, j'étais tout récemment, voyez, ça aussi ça m'avait ému dans son musée, qui ébranlit Jacques Chirac, parce qu'il avait une extraordinaire connaissance des civilisations asiatiques, des civilisations africaines, des civilisations précolombiennes, de ce qu'il appelait les arts premiers, qu'il a imposé dans un musée contre tous les conservatismes, je serais presque tenté de dire, contre certains conservateurs.
Alain Juppé, hier soir sur Europe 1, dans votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Jacques Chirac, c'est aussi l'homme de ses mots.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
7 juillet 1995, discours historique, le discours du Veldiv. Jacques Chirac fait se regarder en face la France et ses heures les plus sombres. Il reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France, dans l'assistance ce jour-là. Rachel Gédinac, 61 ans.
Le 16 juillet 1942, elle est emmenée par la police française lors de la rafle du Vélodrome d'hiver. Petite fille de 8 ans, elle réussit à prendre la fuite par une issue de secours. Rachel Gédinac, 85 ans aujourd'hui, se souvient de la fierté et de l'émotion ressentie le jour du discours de Jacques Chirac.
On était tous bouleversés. Enfin, quelqu'un acceptait de dire la vérité. Ce qui s'était passé 50 ans pour pouvoir enfin nous exprimer. Les vannes se sont ouvertes. Tout le monde a pu raconter ce qu'il avait vécu. On ne voulait pas nous entendre auparavant. Et je précise que nous étions presque tous des enfants français. Nous étions une ombre au tableau. On parlait après la guerre de la France résistante. J'ai entendu parfois « Ah, ben tu as de la chance d'être resté en vie, alors tais-toi, Et puis c'est là qu'on a commencé à nous organiser tout de suite pour mener un combat contre l'oubli. Nous avons été les précurseurs pour poser les plaques dans les écoles. Je continue encore maintenant, 23 ans après, à témoigner dans les écoles, collèges et lycées. Je lui sais vraiment gré d'avoir rétabli la vérité. Merci à Jacques Chirac.
Rachel Gédinac, rescapée du Veldiv, jointe pour Europe 1 par Virginie Riva.
Et notez que Christine Albanel, ancienne plume de Jacques Chirac, sera l'invitée de Mathieu Béliard à 6h40. C'est elle qui avait rédigé ce discours du Veldiv en 1995.
Europe 1, il est 5h08, c'est la suite de cette matinée spéciale avec Jérôme Lacroix et Julien Pierce.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 2002, sommet de la Terre à Johannesburg. Un autre discours marquant, Jacques Chirac en précurseur se saisit des problématiques environnementales.
Précurseur aussi sur les questions de santé publique, décision la plus marquante, 2003 et cette première mondiale à Evroger.
En 2003, Jacques Chirac invente tout simplement le concept de plan cancer. C'est la première fois au monde qu'un pays décide d'un arsenal de mesures contre une seule maladie. À l'époque, le cancer gagne du terrain, il y a 2 millions de malades en France. Et Chirac décide de frapper un grand coup. 70 mesures dont on retient aujourd'hui. D'abord, le dépistage à grande échelle du cancer du côlon, mais aussi du sein, des mammographies pour toutes à partir de 50 ans. Et puis, cette spectaculaire hausse du prix du tabac, plus 35% en 2 ans, accompagnée d'un résultat tout aussi spectaculaire sur la même période. Le nombre de cigarettes vendues chute de 80 milliards à 50. Et puis, si vous payez une taxe de quelques euros sur votre billet d'avion depuis 2006, c'est encore Jacques Chirac qui a décidé de reverser cet argent aux victimes du sida, qu'elles aient accès au traitement partout dans le monde. C'est lui aussi qui a tenté de rendre la vie plus facile aux handicapés. Sa loi de 2005 prévoyait d'améliorer l'accès dans le métro, dans les lieux publics pour les personnes en fauteuil roulant. Mais là, le chemin est encore long.
Ève Roger pour Europe 1.
Très content. Je suis toujours heureux quand je suis au Salon de l'agriculture ou avec les agriculteurs en général. Très heureux.
Ça, c'est une histoire d'amour, celle entre Jacques Chirac et le monde agricole. Il n'a jamais oublié ses racines terriennes et en 40 années de vie politique, il n'a manqué qu'une seule fois le rendez-vous du Salon de l'agriculture. Le monde paysan le considère comme le meilleur ministre de l'agriculture de la 5e République.
Il n'est pourtant resté que 2 ans à ce poste entre 1972 et 1974, partisan de la PAC et d'une agriculture moderne. Aujourd'hui, le monde paysan, dont il a toujours été un grand défenseur, le pleure et le regrette. Illustration dans le Nord avec notre correspondant sur place, Lionel Gougelot.
Je pense que franchement, il nous aimait, nous les agriculteurs. Et avec nous, il se sentait dans son milieu. C'était sincère.
Et cet attachement viscéral au monde agricole, Michel Ledru, ancien président des producteurs de lait en Seine-Maritime, l'a constaté chez Jacques Chirac, notamment quand il bataillait à Bruxelles pour les intérêts de l'agriculture française.
On avait confiance en lui. On savait qu'il allait vraiment faire le maximum parce qu'il y croyait. Mais il jouait franc jeu avec nous. Il nous disait « ça c'est possible, ça c'est pas possible ». Vous voyez, cette sincérité-là a été appréciée du monde agricole.
Exploitant à Yvetot, Jocelyn Pesque l'affirme, depuis le passage de Jacques Chirac au ministère de l'Agriculture, le monde paysan n'a pas eu de meilleur allié et sa voix serait bien utile aujourd'hui pour défendre une agriculture malmenée et critiquée de toutes parts.
C'est le meilleur ministre de l'Agriculture qu'on ait eu, ça c'est sûr. On n'a jamais, depuis Jacques Chirac, senti cette sincérité, cette compréhension de l'agriculture, de ses valeurs, de ce qu'elle produisait. Ça avait beau être un homme politique, j'ai jamais senti de démagogie dans ses propos. Et puis, il se rappelait des fondamentaux de ce qu'apporte l'agriculture. Ça, on l'oublie un petit peu parfois, quoi. Notamment en ce moment. Hein.
Reste le souvenir de l'homme, amateur de bonne chère et gourmand des produits du terroir. Et là aussi, confie l'agriculteur, c'était une vraie preuve d'amour pour les paysans et leur métier. À Yvetot, Lionel Gougelot, Europe 1.
Jacques Chirac pleurait et regrettait en France, mais aussi bien au-delà des frontières de l'Hexagone, dans les départements d'outre-mer où il s'est plusieurs fois déplacé. Et puis à l'étranger, minute de silence à l'ONU, marque d'estime ces dernières heures de Saad Hariri au Liban, de Vladimir Poutine en Russie.
Il restera l'homme qui a refusé de suivre les Américains dans la guerre en Irak en 2003, un président également au chevet du monde arabe, 23 octobre 1996, premier président occidental à se rendre en Cisjordanie puis à Gaza. La veille, il était à Jérusalem et cette colère qui restera gravée.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. Please, you stop now.
Bonjour. Jacques Chirac en pleine foule israélienne tense les forces de sécurité dans la vieille ville de Jérusalem. Marine Igli est retournée sur place pour Europe 1 et personne n'a oublié ce jour.
C'est dans les ruelles étroites de la vieille ville de Jérusalem que Jacques Chirac a marqué les Palestiniens. En 1996, le président français est en rend visite dans la ville sainte et il s'en prend aux soldats israéliens chargés de sa sécurité.
Je commence à en avoir assez. This is not a method. This is a provocation.
Une provocation dont Haïssam se souvient avec fierté.
Il a demandé à être en contact directement avec les Palestiniens, comme s'il était l'un d'entre eux. Il a refusé que les soldats israéliens le protègent. C'était une bonne décision.
Dans les échoppes, le docteur Chirac, comme on l'appelle ici, fait l'unanimité. Derrière son grand plateau de pâtisserie au miel et au fromage, Adnan Jaffar se souvient de son amitié avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat. Pour lui, Jacques Chirac était le plus grand des présidents français.
Que Dieu ait son âme, Chirac était super. Il était aux côtés des Palestiniens contre l'occupation israélienne que nous subissons encore. Mais maintenant, la France n'est plus aux côtés des Arabes.
Tout comme les habitants de la vieille ville de Jérusalem, les autorités palestiniennes ont rendu un vibrant hommage à Jacques Chirac. Côté israélien, en revanche, les réactions ont été beaucoup plus discrètes. Jérusalem, Marie Nigli, pour Europe 1.
Jacques Chirac est mort, il avait 86 ans. Matinale spéciale sur Europe 1 jusqu'à 9h.
Et cela a beau être une matinale spéciale, cela reste votre matinale. Alors venez partager avec nous votre émotion, vos souvenirs. Que retenez-vous de Jacques Chirac? Quel regard portez-vous sur l'homme et son action politique? J'attends vos témoignages au 39-21. Merci Jérôme Lacroix pour ce journal extrêmement complet.
Europe 1, il est 5h13.
Et c'est l'heure de passer aux courses avec Thierry Léger, le Paris gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, il y aura des courses cet après-midi à Lyon, Paris, et mon pari gagnant sera le 305, Repelayo. Bien né puisqu'il n'est autre que le petit frère du champion Almanzor, gagnant il y a 3 ans du prix du Jockey Club et qui officie désormais au Haras en tant qu'étalon, il va effectuer cet après-midi des débuts très attendus. Jugé sur ses galops du matin réalisés chez lui à Chantilly, il possède à l'évidence un brin de qualité qui doit lui permettre d'emblée de justifier les bruits favorables dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. Notez bien, pour Lyon-Paris, réunion 2 dans la troisième course, le numéro 5, Repelayo.
Merci beaucoup Thierry Léger, à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet. Europe 1. Dans un instant, le reste de l'actualité et un portrait exceptionnel de Jacques Chirac signé par la meilleure plume d'Europe 1. Très bon réveil à tous.
Il est 5h15, matinale spéciale sur Europe 1 au lendemain de la disparition de Jacques Chirac. Le reste de l'actualité, c'est avec vous Julien Pierce.
Après l'incendie spectaculaire d'une usine classée Seveso à Rouen hier, les écoles de 12 communes resteront fermées aujourd'hui. La plupart des habitants évacués hier ont pu regagner leur habitation en soirée. L'incendie est maîtrisé, pas de risque de pollution de l'eau potable selon le préfet. Des tests vont être effectués dans la Seine. Le budget 2020 présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, le premier post-gilet jaune, priorité. Le pouvoir d'achat, 9 milliards d'euros de réduction d'impôts sont donc prévus via la baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron. Et puis, un rendez-vous sport ce soir, 21h à Paris-Bercy. Les Bleus du volley affrontent la Serbie pour une place en finale du championnat d'Europe.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
Il est 5h16, la suite de cette matinale spéciale sur Europe 1 au lendemain de la disparition de Jacques Chirac.
Programme exceptionnel ce matin. Tous nos chroniqueurs reviendront jusqu'à 9h sur les multiples facettes de l'ancien président de la République. Mais surtout, ne manquez pas, à 8h15, la toute dernière interview radio de Jacques Chirac. Cette interview, eh bien, elle s'est passée ici, sur Europe 1, en novembre 2009. Un entretien exceptionnel présenté par Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk et commenté en direct par notre éditorialiste Catherine Ney. Mais avant cette question, qui était vraiment Jacques Chirac? Qui était l'homme derrière le politique, derrière le sourire ravageur et les franches poignées de main? Élément de réponse avec ce portrait fantastique signé Marc Messier.
Si la vérité d'un homme tient d'abord dans ce qu'il cache, comme l'écrivait Malraux, il faudra beaucoup de sagacité aux historiens pour découvrir qui était vraiment Jacques Chirac. Sans doute l'un des plus secrets de nos présidents de la République. Un mystère, ont souvent dit ses amis. Un homme qui, dans le fond, n'avait pas grand-chose à voir avec l'image qu'il a renvoyée et qu'on a donnée de lui pendant un demi-siècle de vie publique. Des dehors, souvent bien loin du dedans. Derrière les têtes de veau et les packs de Corona, son goût pour l'ethnologie et les civilisations anciennes. Derrière le claqueur de bise, grand baigneur de foule et peloteur de cul de vache, sa curiosité pour les langues disparues et les peuples oubliés. Derrière les blagues et grillardes, sa tentation de la poésie. Derrière le glouton, le délicat. Derrière le rustique, le subtil. Toute sa vie, Jacques Chirac aura caché son double. L'histoire d'un petit garçon ébloui par les aventures de Marco Polo, fasciné par les voyages extraordinaires de Jules Verne. Un jeune garçon qui va s'émerveiller au musée Guimet, rester baba pendant des heures devant les trésors d'Extrême-Orient. Le jeune Chirac rêve de route de la soie et de mer de Chine. Il n'a pas encore 20 ans qu'il imagine sa vie à bord d'un bateau. Une confidence faite à Jean-Pierre Elkabbach lors de sa dernière interview radio sur Europe 1, c'était en 2009.
Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une ambition. Je voulais être marin au long cours. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que je m'étais embarqué sur, comme pilotin, c'est-à-dire un poste tout à fait modeste, bien entendu, sur un bateau de la marine marchande. Et mon ambition à l'époque, c'était de poursuivre une carrière et devenir peut-être un jour capitaine au long cours. Bon. Jusqu'au jour où, au moment où on arrivait au port de Dunkerque, j'ai vu une grande silhouette sur le quai, c'était mon père. J'ai compris que c'était la fin des facilités et des vacances.
Et on a appris que c'est le marin Chirac qui a connu dans la casse d'Alger sa première expérience avec les femmes.
Oui, ça c'est exact. Oui.
Le jeune homme déniaisé débarquait sur le quai, envolait les chimères du Cap de Bonne-Espérance et du golfe d'Aqaba. Le jeune Chirac embarquait de force pour une autre vie. Sciences Po, loin de l'Abyssinie, l'ENA encore plus loin du Tonkin. Les cabinets ministériels à la place des cabinets de curiosité, rue Saint-Guillaume à Sciences Po, il fera une rencontre déterminante. Elle s'appelle Bernadette Chaudron de Courcelles, une jeune femme très très comme il faut, très à cheval sur les formes, très souvent à genoux sur les bancs de l'église. Le choc de deux cultures bourgeoises, comme l'expliquera des décennies plus tard Bernadette Chirac à Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1.
Mon mari a été aussi élevé dans la religion catholique. Bon, je vais vous donner un petit scoop. Quand nous nous sommes mariés, il n'était pas confirmé.
Ah bon ?
Alors, ça fait un peu scandale dans ma famille.
Je comprends.
C'était pas tout à fait le même genre de pensée. Mm-hmm. Mais ma belle-mère était très croyante et très pratiquante. Et on a réparé ça très vite avant le mariage. Mais son grand-père paternel, que je n'ai pas connu, bien entendu, était un enseignant qui dirigeait l'école Firmin Marbeau à Brive, et il était anticlérical et franc-maçon. Alors, évidemment, tout ça n'était pas très souriant pour ma famille quand je me suis fiancée. Mais enfin, c'est du passé, tout ça.
Le passé. 60 ans de vie commune, le vouvoiement de rigueur, les écarts de monsieur. Je n'ai pas détesté les femmes, mais je n'en ai pas abusé, confiera Chirac à Pierre Péan quelque temps avant de quitter l'Élysée. Ces femmes cachées dans les alcôves de la République, les nuits seules de Bernadette à l'Élysée. Mais pas d'apitoiement, madame déteste ça. Dans son livre d'entretien conversation, elle confessera, stoïque, « Mon mari est toujours revenu au point fixe ». Et d'ajouter de toute façon, je l'ai souvent prévenu, le jour où Napoléon a abandonné Joséphine, il a tout perdu. Bernadette Chirac préférera se souvenir des débuts de leur histoire. L'époque où le jeune aventurier de la politique la rendait toute chose.
Il a une grande confiance dans la vie et une grande confiance dans les hommes. Quelquefois trop peut-être. D'abord, il a, dès sa petite enfance, certainement eu une santé exceptionnelle. Il est animé par une ardeur permanente, un amour finalement des hommes. Et un goût de servir ses compatriotes. Il a en lui une force, un enthousiasme qui sont peu communs et qui, quand il avait 20 ans, se percevait bien sûr déjà. Il était assez unique dans son genre.
Derrière les grands sourires de Chirac, un fond de tristesse qui semblait ne jamais le quitter. Une souffrance profonde, dissimulée. La maladie de Laurence, sa fille aînée. La grande sœur de Claude, celle qui, petite, ressemblait le plus à son père. Laurence, son anorexie, ses tentatives de suicide, le crève-cœur et le tabou de Jacques Chirac. Il n'y a aucune raison de le nier, c'est et ça a été le drame de ma vie, avait fini par avouer Chirac à Pierre Péan dans son Inconnu de l'Élysée. Pour s'apaiser, pour oublier sa peine, Chirac se retirait souvent dans ses rêves, comme quand il était petit garçon. Le président enfermé dans son musée imaginaire au milieu de Bouddha Ming et de déesses antiques indiennes. Chirac qui avait fait découvrir les chefs-d'œuvre asiatiques à François Mitterrand. Écoutez-le lors de l'inauguration du musée de son enfance, le musée Guimet, entièrement rénové en 2001.
Vous savez quel sentiment je porte à votre musée. C'est ici qu'il y a longtemps j'ai rencontré et aimé l'Asie. J'ai passé là de longs moments. Et parmi tant de pièces admirables, vous me permettrez d'en mentionner quelques-unes parce qu'elles me tiennent aussi à cœur. Cette splendide stèle votive du VIe siècle venue tout récemment enrichir vos collections de la Chine bouddhique. Ce merveilleux caravanier du VIIe siècle chinois et cette extraordinaire tête Gupta de grès rose dont, monsieur le conservateur général, et je le comprends, vous êtes particulièrement fier.
L'Asie, mais aussi l'Afrique, l'Océanie, ces continents premiers, ceux des origines de l'homme, disait Chirac, qui la nuit tombée, reclus dans son bureau de l'Élysée, était capable pendant des heures de coller des petites étiquettes sur des statues nègres. Les mots mouillés, ses préférés. Son œuvre présidentielle, ce sera Branly, le plus grand musée du monde des arts premiers. Une petite revanche sur le destin, un bras d'honneur à tous ceux qui l'avaient traité de président zéro de la culture. On me prend pour un ignare, rigolait souvent Chirac. Tant mieux, au moins on me fout la paix. Chirac, l'homme secret, jusque dans ses tiroirs. Sa dernière confidence, c'était en 2009, au micro Europe 1 de Jean-Pierre Elkabbach.
Il paraît que dans vos bureaux, il y a toujours eu un tiroir fermé à clé et qui a intrigué, même vos amis. Un jour, devant Jérôme Monod, vous avez montré votre secret. Qu'est-ce que c'était ce secret ?
C'était tout simplement des livres de poésie. La poésie est un courant d'air nécessaire pour l'esprit, surtout pour l'esprit politique. Il y a un moment où il faut savoir s'isoler. Il y a le meilleur moyen de s'isoler, c'est de rêver. Et pour rêver, il n'y a rien de tel que la poésie. Voilà.
Un rêveur qui avait pour habitude d'expliquer que son nom, Chirac, venait de la Languedoc. La langue des troubadours, disait-il, celle de la poésie.
Le portrait de Jacques Chirac, intime, dressé par la plume, et quelle plume du grand Marc Messier. Vous l'avez compris, jusqu'à 9h, matinale spéciale au lendemain de la disparition de Jacques Chirac. À 6h40, Mathieu Béliard reçoit Christine Albanel, l'ancienne ministre de la Culture, a écrit les plus grands discours de Jacques Chirac. Et puis ne manquez pas, à 8h15, la toute dernière interview radio de Jacques Chirac. Vous venez d'en entendre un extrait, c'était sur Europe 1 en novembre 2009. Un entretien exceptionnel présenté par Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk, et commenté en direct par notre éditorialiste Catherine Ney. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, votre matinale spéciale se poursuit avec les doigts dans l'assiette. Nous serons en Corrèze, là où Jacques Chirac a noué une relation exceptionnelle avec le monde agricole. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, il est 5h26, matinale spéciale Jacques Chirac qui nous a quittés hier.
Oui, et on va faire un point météo avec Laurent Cabrol. Laurent, ce n'est pas très clément hein, aujourd'hui.
Pardon, vous m'avez dit, ce n'est pas très clément. Ah, ça n'est pas très clément, non, parce qu'on parle en même temps dans l'oreille droite. Alors, ça n'est pas très clément, non, on peut dire que ce n'est pas clément du tout, même sur les deux tiers de la France. Alors, nous avons de la pluie dans les Deux-Sèvres, le Poitou, la Touraine, la Seine-et-Marne, la Marne, les Ardennes, autant de secteurs où la pluie est là en ce moment et elle est en train de descendre vers la Gironde, le Limousin, descendre c'est-à-dire aller vers le sud, vers la Gironde, vers le Limousin, le Dijonais, la Lorraine et l'Alsace. Si vous habitez le Midi-Pyrénées, le Massif Central, la Franche-Comté, ce sera souvent nuageux, mais on ne peut pas dire que les pluies arriveront dans la journée, elles arriveront plutôt ce soir. Enfin en Méditerranée, comme sur la région Rhône-Alpes, eh bien du soleil. Sur la moitié nord, c'est un régime d'averse, sur Paris notamment, des averses qui seront surtout présentes cet après-midi. Averses également sur le littoral de la Manche, où là où elles seront un peu plus nombreuses, avec à la clé quelques orages, hein, et peut-être des vents assez violents, autour de 60-70 km/h. Voilà, qu'ai-je oublié ? Non, pas grand monde. Dans la partie averse, vous avez bien sûr Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre, la Bretagne et le Poitou-Charentes. Alors voyons maintenant les températures. Température maximale, celle de l'après-midi par définition, 17 degrés à Langres, 19 à Cherbourg et Dunkerque. Nous sommes autour de 20 degrés vers Manosque, vers Montluçon, Charleville-Mézières, Troyes, Angoulême, Évreux. Du 21 degrés du côté de Brive-la-Gaillarde, 23, 24, 25, Saint-Giron, Toulouse, Pau, Mont-de-Marsan. Et puis, pour les plus élevés, 30 degrés à Nîmes. Hein.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol, et à tout à l'heure.
Europe 1, il est 5h28 et c'est les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger. Et
évidemment, au lendemain de la disparition de Jacques Chirac, il nous était impensable de ne pas appeler un agriculteur de Corrèze. Bonjour Tony Cornelissen.
Oui, bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Corrèze. Vous l'avez rencontré, Jacques Chirac ?
Ah oui, oui, je le rencontrais régulièrement. Il avait l'habitude de participer à tous les comices à chaque fois qu'il y avait des manifestations agricoles et qu'il était sur secteur. Au moins du temps où il était ministre et député, on le voyait très 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 régulièrement.
Vous auriez...
Il était d'un abord aussi très facile et ça nous permettait aussi de le voir, souvent.
Vous auriez une anecdote à nous partager ?
Oui, j'en ai, je me rappelle trop de cette fameuse anecdote qui est tournée sur Canal+, là, celle du « c'est beau mais c'est loin », du « c'est beau mais c'est loin », c'était à Mémac, et j'étais aussi responsable, je faisais partie de la boucle, et il avait pas vu qu'il y avait la caméra derrière lui, et à chaque fois... à chaque personne, il saluait tout le monde parce qu'il faisait froid, puis c'était un peu neigeux, et c'était quand même une ferme qui était assez éloignée de Mémac, avec une route assez sinueuse, et quand il arrivait, il a démarré, c'est beau mais c'est loin, c'est beau mais c'est loin, et sans savoir qu'il y avait la caméra derrière, et ensuite derrière, ben le zoom a fait le reste, et ça a été une petite histoire qui avait été racontée par Canal+, et qui avait été, je crois, reprise par les Guignols.
Voilà. Merci beaucoup.
Donc ça, c'était...
Merci beaucoup. Tony Cornelissen, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Corrèze. C'était important d'avoir votre sentiment, votre témoignage. Merci à vous et à bientôt sur Europe 1. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de votre journal.
Europe 1, il est 5h30.
Je suis indigné. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Alors je vous le dis, ces allégations sont indignes et mensongère.
Abracadabrantesque, ce mot restera associé à Jacques Chirac, éclaboussé à l'époque par l'affaire du financement occulte du RPR. Jacques Chirac qui nous a quittés hier à 86 ans, nous lui consacrerons bien sûr la totalité de ce journal.
Dès hier soir, il y avait foule pour venir écrire un mot sur les livres d'or ouverts à l'Elysée.
Oui, reportage dans un instant. Une autre phrase qu'on gardera en mémoire, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, l'occasion de faire le point sur l'action de Jacques Chirac en matière d'écologie.
Et puis son nom reste à jamais associé au musée du Quai Branly à Paris, consacré aux arts premiers. C'est d'ailleurs là qu'on l'a vu pour la dernière fois en public, c'était en 2014.
Europe 1.
La Tour Eiffel s'est éteinte hier à 21h en hommage à Jacques Chirac, décédé chez lui quelques heures plus tôt à l'âge de 86 ans.
Oui, dans le même temps, l'Élysée a ouvert ses portes aux Français qui voulaient lui marquer leur attachement. Dès hier soir, des centaines de personnes de tous âges, le visage grave, se sont déplacées pour signer les livres d'or. Reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.
Je pense qu'il a attendu lui pour être président, il a un peu galéré, donc on va attendre pour lui rendre hommage.
Des centaines d'anonymes comme Sarah patientent dans le froid avant d'entrer dans la cour d'honneur de l'Élysée. Dans la longue file d'attente jusque tard dans la nuit, beaucoup de jeunes dont Jacques Chirac a marqué l'enfance, Julie, 22 ans.
C'est mon premier souvenir, quoi. Quand j'avais 5 ans, je suis descendue dans la rue pour la première fois avec une pancarte à la main contre Monsieur Le Pen au deuxième tour. Alors, je me souviens du visage de Chirac, je le voyais un peu comme mon sauveur à l'époque.
Des témoignages d'affection et d'admiration pour le plus populaire des présidents, Mathieu, 18 ans.
Je résumerai en quelques mots en disant homme d'État, précurseur et amoureux de la France. Il a marqué notre pays.
La mort de Jacques Chirac, c'est un moment de l'histoire de France pour Bertrand, un Parisien. Il a tenu à venir avec son fils Nola.
Il a 12 ans, il commence à prendre sa citoyenneté. Et quand on n'habite pas trop loin, venir rendre hommage, ça fait partie aussi d'un geste républicain pour transmettre une certaine idée à la fois du pays, de ses institutions et transmettre l'envie de citoyenneté aux prochaines générations.
L'Élysée restera ouvert jusqu'à dimanche pour permettre aux Français de signer l'un des 4 livres d'or mis à disposition.
Jean-Gabriel Bourgeois, de leur côté, les Républicains ouvrent un cahier du souvenir à partir d'aujourd'hui et pour toute la semaine au siège parisien du parti dans le 15e arrondissement. Lundi sera une journée de deuil national, un hommage religieux officiel lui sera rendu en l'église Saint-Sulpice à Paris.
Et dès l'annonce de sa mort hier, de très nombreux hommages lui ont été rendus.
L'un des plus émouvants, c'était sans doute celui de son amie de toujours, Lynn Renault. Elle l'avait connue en 1975 lors d'un meeting et il ne s'était plus jamais perdu de vue.
J'ai perdu comme un frère. Il aimait la France, il aimait les Français, il aimait leur serrer la main, il aimait les toucher. C'était pas une mise en scène, c'était vraiment lui.
Lynn Renault, vous l'aviez vue ces derniers jours ?
Oui, il y a peut-être 2 mois, parce que Claude, elle lui disait « Papa, c'est Lynn ». Il me regardait, me chevillait, il disait « Bichette, tu es la Bichette ».
L'émotion de Lynn Renault, interrogée sur Europe 1 par Pierre de Villeneuve. Hier soir à 20h, Emmanuel Macron a prononcé une allocution télévisée pour dire sa tristesse, son émotion parlant de Jacques Chirac comme un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait.
Et de Jacques Chirac, on retiendra notamment cette phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».
Oui, des mots prononcés lors du sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. C'était l'une des toutes premières prises de conscience du réchauffement climatique. Écoutez.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Jacques Chirac, donc en 2002 en Afrique du Sud, à l'époque, il avait emmené avec lui dans son avion Nicolas Hulot, qui désire saluer la sensibilité écologique du président défunt. Virginie Salmen, si on fait un retour sur son bilan, est-ce qu'on peut dire que Jacques Chirac avait vraiment des convictions écologistes ?
Jacques Chirac, c'est Monsieur Voiture à Paris. En tant que maire, il relance notamment les travaux de la voie express rive gauche le long de la Seine. En tant que Premier ministre puis chef de l'État, il est un ardent défenseur du nucléaire. L'EPR de Flamanville, c'est lui. Il annonce même son lancement avant que la consultation publique ne soit terminée. C'est aussi le président qui décide de la reprise des essais nucléaires à Mururoa en 1995. Celui qui recrute son Premier ministre, Alain Juppé, en lui demandant s'il sait au moins tâter le cul des vaches, allié de la frange productiviste des agriculteurs à la FNSEA. Mais Jacques Chirac est aussi un chef d'État sensible à l'influence de deux figures écologistes, Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Hulot. Ils sont tous les deux avec lui à bord de l'avion qui l'emmène au sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg, et où la phrase devenue culte « Notre maison brûle » a été griffonnée sur un coin de table en plein vol. Deux ans plus tard, il concrétise ses paroles en appuyant l'idée que lui souffle Nathalie Kosciusko-Morizet, encore elle, la France inscrit la protection de l'environnement dans sa constitution, un acte fort après une bataille acharnée à l'Assemblée nationale.
Éclairage signé Virginie Salmen.
Europe 1, il est 5h35, la suite de la matinale spéciale avec Hélène Zélani et Julien Pierce.
Autre thème cher à Jacques Chirac, la sécurité routière. Il en avait fait l'un de ses trois chantiers prioritaires lors de son deuxième mandat.
Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, rappelle ce qu'on lui doit.
Nous lui devons des milliers de vies, plus de 40 000 vies depuis qu'il a pris ses décisions. C'est une guerre civile qui était sur nos routes. Il y a eu à mis un terme. Sa politique a été basée sur la mise en place des radars, une faible tolérance pour les petits excès de vitesse et la fin des indulgences. Dans notre pays, à cette époque, 50% des gens ne payaient pas leur PV. Il a osé également parler de la barbarie sur les routes. Et c'est l'homme qui, au mondial de l'automobile, dans ce temple de l'automobile, a osé dire « je condamne la vitesse » comme argument de vente pour les constructeurs. Il a osé, il a réussi.
La présidente de la Ligue contre la violence routière au micro Europe 1 d'Aude Leroy.
Ce matin sur Europe 1, nous avons également choisi de revenir sur l'un des épisodes marquants de la présidence de Jacques Chirac, les émeutes de 2005. Trois semaines de violence qui avaient embrasé les banlieues.
Tout avait commencé à Clichy-sous-Bois après la mort de deux adolescents, Zied et Bouna. 14 ans après, les habitants se souviennent-ils de cette période et du rôle de Jacques Chirac ? Réponse avec le reportage de Jihad Bergaoui.
Ça partait un peu en cacahuète, entre guillemets, partout. C'était malheureux parce qu'il y a des trucs qui ont été brûlés qu'il fallait pas. Moi, je participais aux émeutes.
À l'époque, en 2005, Ahmed a 22 ans. Chaque nuit, le jeune homme sort dans la rue et affronte des policiers. Mais après trois semaines de violence, à la mi-novembre, Jacques Chirac prend la parole et s'adresse aux Français.
Il nous a parlé, on a écouté ce qu'il voulait dire. On a compris ce qu'il voulait nous faire comprendre, de ne pas donner une mauvaise image. Maintenant, il faut ranger les armes et il faut écouter ce qu'il veut nous proposer.
Même sentiment au café où les aînés prennent le thé à la menthe. Mohamed et Jamel se souviennent d'un président fédérateur pendant ces émeutes.
Mais oui, il a calmé les choses, oui. Parce que ce n'était pas lui qui l'a calmé, il aurait encore brûlé plus l'histoire de Clichy-sous-Bois.
Pour vous, c'est Jacques Chirac qui a calmé les émeutes.
Ah oui, il a calmé les émeutes. Oui. Il a changé beaucoup de choses. Il n'était pas comme Sarkozy, parce que Sarkozy, il était trop à droite.
Il a un bon image à 200%, Jacques Chirac. C'est vraiment, on dirait, c'est le père à tout le monde.
Il y a 14 ans, au lendemain des émeutes, Jacques Chirac s'était engagé à désenclaver Clichy-sous-Bois. Le tramway, promis à l'époque, devrait entrer en fonction à la fin de l'année. Reportage de Jihad Bergaoui. Et puis Jacques Chirac, c'était aussi un homme de culture. Son nom restera à jamais associé au musée du Quai Branly à Paris. Jean-Sébastien Soldaini est allé faire un tour dans ce musée dédié aux arts des civilisations primitives, une des passions de l'ancien président.
Ces chants qui résonnent dans une petite pièce du musée viennent de la culture Dogon en Afrique. Dans cette communauté, Jacques Chirac avait été élevé au rang de dignitaire de la société des masques de bois brut qui entourent Patrick, un visiteur. Il n'était pas un soutien de l'ancien président, mais en arpentant les allées, il lui reconnaît tout de même une qualité.
Là, on retrouve, je trouve, son bon goût, que ça nécessite une certaine culture et... Comme c'était un homme que l'on qualifiait, je pense à juste raison, un peu de terroir, bon ben là ça prouve que le terroir n'a pas beaucoup de frontières finalement.
Myriam s'attarde plutôt sur une série de statuettes. Elle reconnaît visiter régulièrement ce musée qu'elle considère comme un héritage de Jacques Chirac.
Ça montre à quel point c'était un homme qui était ouvert d'esprit, à mon avis très intelligent et qui nous fait partager à travers ce musée son amour pour les autres civilisations. On va dire éloigné de Paris et donc c'est une richesse pour tout le monde et en particulier les Français.
Jacques Chirac passait régulièrement au musée, c'est même en 2014 au Quai Branly que l'ancien président a fait sa dernière sortie publique.
Jean-Sébastien Soldaini.
Matinale spéciale sur Europe 1 jusqu'à 9h. N'hésitez pas à nous appeler au 3921 pour nous faire partager votre expérience et vos souvenirs de Jacques Chirac. C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci infiniment Hélène.
Europe 1, il est 5h39.
Les courses avec les pronostics du quintet Thierry Léger. Thierry, ça se passe où aujourd'hui?
C'est à Vincennes en nocturne que va se courir ce quintet. Avec attention, un nom partant, le numéro 10, Brooks. Restant sur deux succès, David Chibond, le numéro 11, me semble être bien armé pour réaliser la passe de 3. Sérieux et toujours drivé au millimètre par Alexandre Brivard, ces deux-là méritent un très large crédit. Dino Durillère, le numéro 12, a lui aussi le droit de l'emporter, sous réserve qu'il daigne se montrer sage, entre-temps d'un bout à l'autre du parcours. Ensuite, je vous recommande Domaine de Lif, le numéro 5, irréprochable depuis le début de l'été, le 2 Calin de Fourche, rarement déféré des 4 pieds, et Caragédé, le numéro 14, pour lequel son entraîneur Alexandre Pillon affiche une confiance sans réserve. Mes trois outsiders seront le 7, Ciel Boréal, le 3, Cool Rendez-vous, et le 15, Cabernet. Mon pronostic, 11, 12, 5, 2, 14, 7, 3 et 15.
Merci Thierry Léger et on vous retrouve dès demain matin.
Europe 1, Julien Pierce.
L'interview actuelle sur Europe 1 au lendemain de la disparition de Jacques Chirac. Vous recevez, Julien, l'éditeur et le biographe de l'ancien président de la République. Il a participé à l'écriture des deux tomes des mémoires de Jacques Chirac. Votre invité, Jean-Luc Barré.
Bonjour Jean-Luc Barré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez écouté pendant de nombreuses heures Jacques Chirac. Vous avez écouté son histoire. Qui était l'ancien président? Qui était Jacques Chirac?
Ah, c'est une question immense que vous posez, parce que le personnage était très complexe. C'est un homme qui était, pour résumer un peu les choses, c'était un, je crois d'abord un humaniste. C'est un homme qui avait le goût des autres, plus que de lui-même d'ailleurs. Qui était volontiers dans l'autodérision le concernant, mais qui aimait les autres, qui avait un certain sens de la fraternité, pas forcément en politique, où il était plutôt un tueur, mais donc un humaniste et un homme aussi très secret, qui s'était construit dans le secret, par exemple le fait d'avoir cette passion pour les arts premiers, qui a débouché sur la construction du musée, a été longtemps son jardin secret. Un personnage qui s'était construit un peu dans le secret, dans une forme de distance par rapport à ce que les autres pouvaient savoir de lui. D'où le fait, évidemment, que ses mémoires avaient une certaine importance, parce qu'il le révélait, d'une certaine manière.
Comment s'est passée la rédaction de ses mémoires, justement?
Écoutez, ça s'est passé d'abord dans un premier temps, il n'était pas absolument convaincu de la nécessité de les écrire. Et puis, je crois que ça a beaucoup tenu au fait qu'une sorte de complicité s'est installée entre nous. Au début, il me disait, écoutez, vous devriez vous-même signer mes mémoires, ça aurait plus de succès. Vous savez, aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse à moi. Et puis finalement, c'est le phénomène inverse qui s'est passé. D'abord, la popularité est revenue. Et le livre a eu beaucoup de succès, en tout cas le premier et le second également, près de 500 000 exemplaires. Donc c'était pour lui une forme de reconnaissance. Donc il n'y avait pas le souci de laisser une trace dans l'histoire, mais il y avait tout de même le souci d'expliquer ce qu'il avait voulu faire, surtout à un moment où son successeur... avait Nicolas Sarkozy avait cru bon de parler de lui en parlant d'un roi feignant, est-ce qu'il avait quand même beaucoup blessé. J'étais témoin de ça. Souvent on entend dire, mais Chirac sympa, mais il n'a pas fait grand-chose. Ce qui est évidemment profondément injuste, peut-être parce qu'il ne savait pas tellement expliquer sa politique, peut-être parce qu'il n'était pas un homme de communication, au sens où d'autres le sont aujourd'hui. Il n'empêche qu'on fera, quand on va faire le bilan, on va s'apercevoir sur un certain nombre d'actions précises, de domaines précis, on peut se référer à ce qu'il a fait parce qu'il a accompli certaines actions. Donc voilà, moi je pense que ça reste un exemple, il restera un exemple d'homme qui a été un président rassembleur pour les Français, un homme qui a qui était soucieux d'unité nationale, du respect des autres. Et puis quand même, il a donné un signal très fort à la droite par rapport au Front National.
Il vous en a parlé de ça, justement, de ce refus, ne serait-ce que de faire un débat en 2002 face à Jean-Marie Le Pen ?
Bien sûr, il m'en a parlé. D'ailleurs, on a parlé de tous les sujets, vous savez. Et donc, celui-là, évidemment, nous l'avons abordé. Et il m'a dit, écoutez, c'est simple, je n'avais rien à lui dire. Je n'avais rien à lui dire. Parce que j'avais déjà répondu par avance. Ce que je suis, ce que je pense, les discours que j'ai prononcés, toute forme de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme me hérisse. Donc je n'ai rien à dire à un homme comme celui-là. J'ajoute qu'il a été très surpris en 2002 du résultat du premier tour.
Il ne l'avait pas senti venir.
Mais pas du tout. Celle qu'il a senti venir, c'est Bernadette Chirac. Et d'ailleurs, il lui rendait hommage là-dessus. Mais pas lui. Peut-être parce qu'il a refusé d'y croire. Simplement. Ça lui paraissait invraisemblable qu'à ce point-là, le candidat socialiste Lionel Jospin s'écroule dès le premier tour. Et tous ceux qui l'ont vu, je n'étais pas là, mais bien sûr tous ceux qui l'ont vu, et il me l'a dit, avaient un sentiment de très grande tristesse. Il était sûr d'être élu le soir du premier tour, puisqu'il tout le monde se ralliait. Et un grand sentiment de tristesse qui a sans doute pesé après. Comme si les cartes étaient pipées, comme s'ils ne comprenaient plus rien, comme si le jeu politique ne ressemblait plus à rien. Cette montée l'a pris de court. Et je pense que ça a participé d'une forme de mélancolie comme s'il ne se reconnaissait plus dans le paysage politique.
Est-ce que Jacques Chirac vous est apparu comme un président de gauche dans un costume de président de droite ?
Moi, je pense qu'il était. Il m'a dit un jour, je ne suis pas un homme de droite. C'était très clair. Je l'ai beaucoup interrogé là-dessus. Je ne dis pas qu'il était de gauche pour autant, mais il était très proche des valeurs de la gauche. Et puis d'abord, il avait des origines très précises. Ses grands-parents, son grand-père était radical socialiste. Lui-même avait signé l'appel de Stockholm avec les communistes. Il distribuait l'humanité à 17 ans. Il était très proche de Michel Rocard. Je ne dis pas qu'il était je crois qu'il était gaulliste tout de même, même s'il était plus pompidolien que gaulliste, mais très proche des valeurs humanistes de la gauche. Sa vision du monde était passé à l'homme de droite. Il n'aimait pas, par exemple, les États-Unis, c'est absolument évident. Il n'aimait pas le modèle américain. Un jour, il m'a dit, c'est pas un modèle de civilisation, c'est un modèle de consommation. C'est très dur. Lui qui se référait aux grandes civilisations.
Est-ce qu'il vous a parlé de sa vie intime, de son rapport aux femmes, notamment ?
Oui, c'est un sujet que nous avons beaucoup abordé. Il était très pudique sur ce sujet. En même temps, il suffisait de regarder son œil qui s'allumait pour comprendre que c'était évidemment un sujet qui avait compté dans sa vie. D'ailleurs... Un jour, il m'avait fait lire des poèmes érotiques. Il me dit, je vais faire votre initiation. Alors, il me lisait des choses qui étaient assez crues, hein, je dois dire. Il aimait ça. C'est clair qu'il aimait les femmes. Tout le monde sait qu'il a eu au moins deux femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie, dont une, il y a même eu un livre sur elle, dont je peux en parler, c'est Jacqueline Chabridon, qui était une journaliste. Aurait-il, à un moment ou un autre, envisagé de divorcer ? On l'a beaucoup dit. Moi, j'ai du mal à le croire parce que je pense que cet homme qui aimait passionnément les femmes, en même temps, avait noué avec Bernadette une relation très forte. En même temps, je pense que le couple a dû être à certains moments traversé par un certain nombre de secousses.
Dernière question, Jean-Luc Barré. Est-ce qu'au moment de la rédaction de ses mémoires, Jacques Chirac était en pleine conscience de la popularité qu'il avait ?
Alors, oui, il avait trouvé une parade. Il me disait, mais au fond, c'est parce que je ne suis plus au pouvoir. Et alors, un jour, il me dit ça, et je dis, écoutez, regardez vos prédécesseurs. Est-ce que vous croyez que Giscard a jamais été aussi populaire que vous ? Et pourtant, il n'est plus au pouvoir. Alors là, ça lui a fait un plaisir fou, parce qu'évidemment, c'était la référence absolue, c'était le contre-exemple. Et d'ailleurs, regardons aujourd'hui, aucun des successeurs de Chirac qui ont quitté le pouvoir n'est aussi populaire. Donc c'est une popularité très particulière, qui est liée à cet homme-là, dans lequel les Français se sont reconnus. Donc il aimait cette popularité, et le fait que je lui ai parlé un jour de la popularité relative des autres l'a sans doute aidé à le persuader qu'elle était bien à lui, celle-là.
Merci infiniment, Jean-Luc Barré, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous avez été l'éditeur et le biographe de Jacques Chirac. Merci infiniment pour votre témoignage, et je vous dis à très bientôt sur Europe 1.
Merci.
Restez avec nous dans un instant, c'est la partition d'Omblin, l'histoire méconnue d'une chanson ou d'un artiste. La poésie est un courant d'air nécessaire, disait Jacques Chirac, et bien la musique également. Très bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h48, jusqu'à 9h matinale spéciale au lendemain de la disparition de Jacques Chirac. Le reste de l'actualité, c'est avec vous Julien Pierce.
Les habitants évacués lors de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, classée Céveso, ont pu rentrer chez eux dans la soirée. Le feu qui a été maîtrisé n'a pas fait de victimes. Les établissements scolaires de 12 communes et d'une partie de la ville de Rouen resteront fermés aujourd'hui. Le projet de budget 2020 dévoilé hier soir, il sera examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. Plus de 9 milliards d'euros de réduction d'impôts et la suppression de la taxe d'habitation va se poursuivre. Elle concernera 80% des ménages l'an prochain. Et puis, les débats sur le projet de loi bioéthique à l'Assemblée. Les députés s'opposent à la PMA post-mortem avec les gamètes d'un conjoint décédé. Le gouvernement était contre cette mesure, mais elle était défendue par des députés de la majorité comme de l'opposition.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique, a écrit un jour Platon. Une citation que n'aurait certainement pas renié Jacques Chirac, lui, l'amoureux de culture, l'amoureux des cultures. Voilà pourquoi ce matin, on a décidé, Omblin Roche, de maintenir votre partition, ce qui se cache derrière une chanson ou un artiste. Et aujourd'hui sort la première intégrale des Rita Mitsouko. Omblin, vous nous emmenez dans l'appartement de Catherine Ringer et de Fred Chichin, là où a été enregistré leur deuxième album.
Et sans doute le disque le plus important de leur carrière, de No Comprendo, un enregistrement, Julien, dont une partie a été captée par la caméra de Jean-Luc Godard. Les Rita Mitsouko, c'est d'abord un couple, une formidable alchimie entre Catherine et Frédéric, et ça colle entre eux dès qu'ils se rencontrent à la fin des années 70. Leur talent se complète et le décalage entre les textes réalistes de Catherine Ringer et les mélodies énergiques de Fred Chichin devient leur marque de fabrique. C'est en Allemagne qu'ils enregistrent leur premier album. Et il provoque un raz-de-marée musical en France avec Marcia Baila.
Et pour le second disque en 1986, pas besoin d'épater la galerie, non. Ils ne vont pas en Amérique, c'est l'Amérique qui vient à eux.
Effectivement, en la personne de Tony Visconti, le producteur de David Bowie, dont Fred Chichin est complètement dingue. Donc pas de grand studio aux États-Unis pour l'enregistrement de The No Comprendo, mais le décor intime de l'appartement du couple, quartier Ménilmontant, à Paris. Les Rita Mitsouko fabriquent 10 chansons qui mélangent musique punk, rockabilly et jazz. Catherine, entraînée par son guitariste de mari, toujours plus déjanté, une voix au perché, un brin moqueuse.
Et pendant 3 semaines, vous le disiez en préambule, l'élaboration de ce disque va se faire sous l'œil de la caméra de Jean-Luc Godard.
Oui, pour les besoins de son film Soigne ta droite, dans lequel apparaît aussi Jane Birkin, Jacques Villeray ou encore Michel Galabru.
Les histoires d'aller, les histoires d'aller, les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général.
En regardant le film, ne vous attendez pas à assister à une révolution technique.
Ce que vous voulez dire, c'est que Godard filme un travail de musicien, comme n'importe quel musicien, dans n'importe quel studio.
Et oui, c'est ça, avec prise de voix et reprise de tempo. En revanche, il nous fait sentir un parfum d'ambiance, la fragrance d'une époque et le renouveau du rock français. Les Rita seront désormais incontournables. Troisième piste de The No Comprendo pour chanter la la la. C'est comme ça, sur Europe 1.
La 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 la.
Quoi quand il n'y a pas de plaisir, c'est comme ça. La 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 la.
C'est comme ça, Derrida Mitsuko, le disque de No Comprendo.
Et c'est super bien.
Oui, sacré meilleur album de l'année aux Victoires de la musique en 1987. Et de No Comprendo, cet album, vous le retrouvez dans l'intégrale du Dio, qui sort en CD et en vinyle aujourd'hui. Voilà tous les albums d'Erita et aussi des inédits.
Mais s'ils veulent nous les envoyer, moi je suis preneur.
Plaisir.
Merci beaucoup,
Amblin
Rush. La partition d'Amblin, c'est du lundi au vendredi sur Europe 1. Bonjour Christophe Ondelat.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous le savez maintenant, dans quelques minutes, mon histoire du jour sera sur votre application de podcast. Aujourd'hui, l'étrange disparition du pasteur Doucet, homosexuel et militant des minorités sexuelles. Il est enlevé par deux hommes qui semblent être des policiers. Il n'y a plus d'heure pour écouter Ondelat raconte.
Merci Christophe, l'histoire du jour d'Ondelat raconte disponible dès maintenant sur Europe1.fr, sur vos applications de podcast et à partir de 14h sur l'antenne d'Europe 1.
Europe 1.
Allez, dans un instant, Mathieu Béliard poursuit cette matinale spéciale au lendemain de la disparition de Jacques Chirac. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1.